Les marchandes de sable, mouche s'en va en guerre, de Erika Serton. Chapitre 11. La grande réussite. La voilà, elle arrive !» s'écria Polo. « Tu en es sûr ?» demanda Christophe. « Je ne vois rien. »« Si, c'est bien elle, je l'ai vue aussi !» dit Francis. « Elle passe en ce moment derrière le bouquet d'arbres. » « Oui, les gars !» conclut triomphalement Alex. « Tenez, elle agite son mouchoir au bout de son bras. » Les quatre gamins, impatients de voir arriver Mouche, car ils se promettaient une vraie joie de la chasse aux voleurs manquée la veille, n'avaient pu l'attendre tranquillement avec leurs camarades. Alex était allé chercher une échelle, et tous quatre étaient grimpés sur le toit du premier baraquement pour l'avoir débouché des frondaisons qui s'élevaient à la sortie du village. Et malgré les observations du chef de camp qui n'avait pu les faire rester tranquilles, ils avaient choisi cet observatoire pour clamer la nouvelle de l'apparition de la fillette aux autres garçons, qui n'étaient pas moins impatients. Jamais les petits pensionnaires de la colonie n'avaient bondi si joyeusement hors de leur lit dès le premier coup de cloche du réveil. Et tous ceux du premier baraquement furent vite équipés et prêts à se mettre en campagne. Il avait fallu que leur chef se fâchât pour qu'ils prissent leur petit déjeuner convenablement. Mouche avait fait le détour par la route, n'osant pas monter seule la colline pour aller prendre le raidillon, et elle éprouva un véritable soulagement en les voyant lui faire des signaux du haut de leur perchoir. Ce fut en courant qu'elle contourna la clôture grillagée pour arriver à la barrière. Les quatre jeunes garçons voulurent alors descendre, mais un mauvais plaisant avait retiré l'échelle. « S'ils croient que ça va nous gêner, » s'écria Christophe, « ils se trompent bien. Allez les amis, on saute !» Se mettant à plat ventre sur le toit, il se laissa glisser en arrière, marquant un arrêt avec ses coudes, puis se retenant des mains, se laissa tomber sur le sol où il se reçut sans le moindre mal. Alex et Francis l'imitèrent, mais Polo, épouvanté par cette façon de descendre, se mit alors à hurler. « Et moi alors, on m'abandonne ? L'échelle, vite ! L'échelle, je vous en supplie !» Mais ses lamentations n'émurent pas ses camarades, auprès desquels il avait trop souvent la manie de fanfaronner. « Eh bien quoi ? » le crièrent-ils. « Tu n'as qu'à sauter comme les autres, c'est facile, il n'y a pas 2 mètres !» Il y avait bien un peu plus, et le malheureux Polo jetait en bas des regards désespérés. « T'as peur de te casser le cou ?» demanda Alex. « Ne crains rien, on va aller chercher une couverture et on l'attendra pour que tu sautes dedans. » Le gosse, nullement rassuré par la proposition, continuait à pousser des cris. « Monsieur, ils veulent me faire mourir ! Monsieur !» Le chef de camp, qui avait ri tout d'abord, ne voulut pas prolonger son supplice et fit remettre l'échelle en bonne place. Polo eut la satisfaction de retrouver le sol sous ses pieds au moment où Mouche arrivait devant eux. « Bonjour, » fit-elle, « je ne suis pas en retard. » « Penses-tu ?» lança Polo. « Ça fait une bonne demi-heure que nous t'attendons. »« C'est de la blague !» rectifia Christophe. « Nous n'avons pas été sur le toit plus de 10 minutes. C'est Polo qui a eu l'idée de monter dessus, et après il a eu peur d'en descendre. »« Dis donc !» protesta le gamin. « J'aurais bien voulu t'y voir. »« Eh bien, Froussard, tu m'y as vu !» Comme Polo, vexé de cette juste répartie, allait se mettre à pleurer, car il avait la larme facile, Mouche l'embrassa affectueusement. « Allons, c'est fini !» fit-elle, « puisque tu es descendu. Et maintenant, vous êtes prêts ?»« Fin prêt !» affirma Christophe. « Plus qu'à nous mettre les sacs sur le dos. Sans oublier les cordes. Ça y est, monsieur, on peut partir ?»« Si vous voulez !» répondit le chef du camp en s'armant à tout hasard d'un lourd bâton. « Mais je renouvelle à tous mes recommandations. Vous ne ferez rien sans que je vous y ai autorisé, et si je donne un coup de sifflet, rassemblement immédiat sur moi. »« Oui, monsieur !» clamèrent d'une voix tous les garçons. En ce cas, en route. Mais l'équipe de Christophe seulement, j'aurai assez d'une dizaine de braillards à surveiller. Monsieur, firent les autres désappointés. On voudrait tant y aller aussi. Non, certainement pas. Restez sagement ici, nous reviendrons aussi tôt que possible pour apporter des nouvelles. Ce fut une déception pour la trentaine de gamins du premier baraquement qui se voyaient privés de la chasse aux voleurs, mais les ordres du chef étaient indiscutables. Ce dernier, toujours mécontent de cette histoire, et sachant que s'il avait refusé la permission, ses gamins l'auraient peut-être prise quand même, partit en tête de la petite troupe avec Mouche et lui demanda de quel côté il devait se diriger. Nous monterons le raidillon jusqu'à la plateforme de pierre, expliqua-t-elle. Puis nous prendrons le ravin sec. Là, il suffira que vous me guettiez sans vous montrer et que vous arriviez au moment où je vous appellerai. Tout ceci est fort bien. Mais êtes-vous bien certaine de ne courir aucun danger ? Cela ne me plairait pas du tout qu'il vous arrive à quelque chose. Croyez-moi bien, monsieur, que si j'estimais avoir quoi que ce soit à redouter, je ne m'aventurerai pas toute seule. Quand ils furent dans le ravin, elle leur demanda de l'attendre un instant. « Je vais descendre à la maison de Zinzin, » dit-elle. « Ah oui !» reprit le chef. « Ce loqueteux qui est un peu... »« Un peu Zinzin, » continua Christophe. « C'est sûrement à cause de cela qu'on l'a baptisé ainsi. » « Il faut que je sache s'il est chez lui, » reprit Mouche. « Mais comme j'ai entendu dire hier à Monsieur Bigot qu'il aurait repos aujourd'hui, je pense qu'il doit déjà être dehors pour d'autres affaires. » « C'est lui qui doit nous mettre sur la piste du voleur, » intervint alors Polo pour se donner de l'importance. « Surtout pas d'imprudence, hein, Mouche ?» objecta le chef. « Non, monsieur, juste un coup d'œil à donner et je reviens tout de suite. » Fière de se sentir si bien accompagnée, car elle était heureuse de la présence du chef de camp, Mouche descendit vers la cabane, dont elle s'approcha en prenant les plus grandes précautions. Après avoir tourné autour, n'entendant rien, elle se dirigea vers la porte. Celle-ci était ouverte. Zinzin avait déjà quitté son refuge. Tout se présentait comme la fillette l'avait espéré. Mais le plus délicat restait à faire. Elle vint retrouver ses amis et leur annonça qu'elle allait passer par le sentier couvert, mais qu'elle aimerait bien que Christophe vînt avec elle. « Volontiers !» accepta celui-ci. « Nous allons faire une petite ronde. »« Nous gagnerions du temps, » observa Mouche, « si vous alliez tous nous attendre auprès du gros chêne, en vous dissimulant, bien entendu. »« Est-ce loin ?» s'enquit le chef. « Non, un peu plus haut, dans ce ravin même. Je vais vous faire voir où c'est. » Elle les guida jusqu'à l'endroit où, en franchissant le talus du ravin, on apercevait le grand arbre. Tous s'avancèrent alors sans bruit jusqu'à un fourré, à travers lequel on pouvait voir l'entrée du couloir de la rivière boueuse, dont Mouche remarqua que les branchages avaient été déplacés. « Voyez-vous ces branches mortes, debout, contre l'espèce de mur de terre ? C'est là que vous allez me voir arriver avec Christophe, » dit-elle. « Mais si ça ne va pas comme nous voulons, nous vous rejoindrons par le ravin, comme nous sommes venus. » Les explications étant nettes, le chef de camp fit mettre les jeunes garçons à plat ventre sous les feuilles basses et se tint lui-même en observation. Mouche fit le grand tour avec Christophe jusqu'au sentier couvert où ils se virent à quatre pattes. Cependant, avant d'y pénétrer plus avant, la fillette avait remarqué que les rondins fendus en deux n'étaient plus à leur place de la veille. Le voleur avait dû les emporter dans le couloir de la rivière souterraine. Marchant aussi vite qu'il le pouvait dans cette position inconfortable, ils se trouvèrent bientôt devant le premier boyau, celui dans lequel elle avait découvert la musette. Les pierres qu'elle avait remises dans leur sorte de mur n'avaient pas été dérangées. C'était donc dans le couloir suivant que se trouvait la solution. Encore quelques mètres et ils furent à la rotonde du chêne. Apercevant dans un taillis le visage du chef de camp qui lui souriait, elle n'hésita plus. Déplaçant les branches mortes qui avaient été écartées, bien que son cœur battît bien fort, elle s'engagea dans l'ouverture. Le chef, que cette audace alarmait, va rejoindre Christophe qui attendait devant le trou, sa lampe à la main. La fillette avait préféré ne pas s'en servir, ce qui eût donné l'éveil aux voleurs dont les réactions pouvaient être redoutables. Mouche revint, toute salie debout, quelques instants après. « Ça y est, ils sont là !»« Il est là !» fit-elle tout bas. « Il faut que Polo court tout de suite chercher les gendarmes !» Le gamin reçut cette mission avec joie, car il n'était pas fâché de s'éloigner de cet endroit qui lui semblait peu rassurant. Il fila rapidement vers le layon qui descendait au village. Nous n'avons plus qu'à patienter, dit la fillette. Mais si le voleur sort, dit le chef, que ferons-nous? Le mieux serait de sauter dessus pour le capturer et l'attacher ensuite avec des cordes, répondit Mouche. Ce n'est guère à nous de prendre une telle initiative. En tout cas, s'il apparaît, nous pourrons toujours le suivre. Les jeunes garçons, très excités par l'aventure, déployèrent quand même leurs longues cordes. « Nous allons faire les nœuds coulants au bout de nos lassos, » déclarèrent-ils. « Oui, et bien les attacher pour qu'ils ne se défassent pas, » insista Francis. « Il ne faudrait pas laisser s'enfuir notre gibier. » Le chef de camp se contenta de hausser les épaules. Mais il était visible sur son visage qu'il regrettait d'avoir toléré cette expédition. Il lui vit un nouveau sujet de mécontentement. Quand il revint vers sa petite bande pour attendre l'arrivée des gendarmes, il s'aperçut que son nombre avait considérablement augmenté. Désobéissant à ses recommandations, tous les gosses du premier baraquement étaient sur le talus du ravin. À bonne distance, il est vrai, mais les jeunes visages regardaient avidement à travers les arbres. Sans leur adresser d'observation pour ne pas élever la voix, il leur fit signe de s'asseoir et revint au pied du chêne avec Mouche pour la protéger si la nécessité s'en faisait sentir. L'attente leur parut interminable. Pourtant, au bout de quelques minutes, le bruit de plusieurs pas rapides se fit entendre et le brigadier Cortisol apparut, accompagné de Polo et de ses quatre gendarmes. « Alors, dit fit-il durement, le voleur est là ?»«
Vous allez pouvoir le cueillir dans quelques secondes, répondit-elle.
Pour cela, il faudrait le voir.
Cela ne va pas tarder, je vais même le suspendre en plein travail. Vous voyez ces branchages ?»«
Oui, eh bien ?»«
Ils sont là pour masquer le trou qui conduit à la cachette mystérieuse. Venez tous là-dedans, mais ne faites pas de bruit. » ajouta-t-elle en posant son petit doigt sur ses lèvres.
Cortisol haussa une fois encore les épaules, et comme le chef du camp, qu'il connaissait bien, était là et avait l'air de prendre au sérieux ce que disait Mouche, il se plaça avec ses hommes à côté des branches mortes en question. La fillette, qui ne pouvait plus reculer, et d'ailleurs n'en avait pas envie, se glissa dans le trou. Une minute plus tard, elle reparut, souriante.
« Attention !» lui dit Polo à voix basse, « il faut le donner tout ficelé aux gendarmes, nous l'avons promis hier !»
Elle l'avait affirmé, en effet, et c'était bien imprudent. Cependant, elle avait été trop vexée par les abominables soupçons pour ne pas essayer de tenir parole.
« Est-ce que vos cordes sont longues ?» demanda-t-elle à ses camarades.
« La mienne a une quinzaine de mètres, » répondit Christophe.
« Bien, faites-en passer une extrémité par-dessus cette branche de chêne. »«
Est-ce que vous vous moquez de nous ?» s'indigna le brigadier. « Vous ne nous avez pas fait venir pour jouer à la balançoire !»
« Je vous prie de me laisser faire, monsieur le brigadier, » déclara-t-elle d'un ton sec.
Christophe avait obéi. La corde passait par-dessus la branche et retombait en présentant son nœud coulant comme s'il y avait eu quelqu'un à pendre. Mouche saisit le nœud et amena à elle une bonne longueur de corde en recommandant.
« Agrippez bien l'autre bout et soyez prêts à le tirer à mon signal. »
Aussitôt, tous les gosses présents, amusés de la tournure des choses, firent ce qu'elle demandait. Elle leur jeta un regard satisfait et, tenant d'une main le nœud coulant assez ouvert, recommanda encore le silence et se glissa de nouveau dans le souterrain. Tous, aussi bien les gamins que les hommes, attendaient avec anxiété.
« Ce serait incroyable qu'elle ait dit vrai, » songeait à ce moment Cortisol.
Or, c'était vrai sans doute, car Mouche surgit avec l'air triomphant.
« C'est fait, je lui ai passé le nœud coulant autour d'une jambe, » s'écria-t-elle.
« Oh, Is, vous autres, tirez fort !»
Les gosses se suspendirent à la corde qui se tendit, et comme rien ne venait encore, le chef se mit de la partie, et les trois gendarmes vinrent appuyer ses efforts.
« Tirez fort !» cria Mouche. « Vite, vite !» Mais la corde se trouvait freinée par la paroi supérieure du boyau souterrain.
Cortisol et le dernier gendarme se mirent alors à empoigner le filin à l'endroit où sortait de terre et le tirèrent horizontalement. Ils lâchèrent bientôt car la jambe d'un homme apparut, le nœud coulant serré autour de la cheville. Puis le corps entier qui se débattait se trouva soulevé en l'air par un pied, tandis que Mouche et les gamins qui ne participaient pas à cette sorte de pendaison battaient des mains avec frénésie.
« Regardez !» reprit-elle. « Nous avons de la chance !»
C'était le voleur qui n'en avait pas. S'étant attaché une des ficelles à un doigt pour lui imprimer un mouvement de va-et-vient dans la boue afin que l'objet fixé à son extrémité s'en imprégnait davantage, il gigotait au bout de sa corde avec la preuve de son vol suspendu à sa phalange.
« Vous voyez ?» fit Mouche. « Il était en train de préparer une théière. »«
Une théière ?» gronda le brigadier. « Mais ce doit être la précieuse aiguillère de Madame Caruchel. »
« Le voleur est bien pris sur le fait, » reprit la fillette.
« Quoi ?» fit Cortisol stupéfait. « Le voleur, c'était Zinzin. »«
Vous pouvez le laisser retomber, » fit encore Mouche. « L'affaire est réussie. »
Les jeunes garçons lâchèrent la corde et le scélérat tomba durement sur le sol où il demeura un instant abruti par sa chute.
« Le voilà, votre Zinzin, » reprit la triomphatrice.
« Un innocent qui est bien loin de l'être. Au fait, brigadier, vous ne le reconnaissez pas ?»«
Eh bien, quoi, c'est Zinzin ?»
Oui, un faux Zinzin. Vous avez parlé avec Monsieur Brinck, un bandit que vous avez tant cherché et qui s'appelait Cotillard. Le voilà devant vous, c'est lui Cotillard.
Tandis que le brigadier éperlué la regardait avec des yeux ronds, elle tira de son corsage le vieux livret militaire et la coupure de journal.
Tenez, reprit-elle, en voici la preuve. Regardez cette feuille toute sale. C'est la première page d'un journal qui annonce qu'un bandit est recherché par la police et donne sa photographie. Vous ne direz pas que ce n'est pas lui. Et voici un livret militaire à son nom. Il ne pourra pas me contredire.
« Saisissez-le !» ordonna Cortisol à ses gendarmes.
Quant aux objets volés, continua-t-elle, je crois qu'ils sont tous dans la cachette. Il est trempé dans la boue pour qu'on ne remarque pas leur valeur. Mais c'était sans doute inutile, car il avait trouvé un moyen ingénieux de les emporter. Attendant encore une seconde et que Christophe vienne avec moi en prenant sa lampe électrique. Elle rentra de nouveau avec le jeune garçon dans le souterrain, et Christophe revint en portant un des deux rondins de bouleau dont les côtés avaient été rejoints. « Donnez un coup de piolet pour les décoller, » dit encore Mouche. « Nous verrons probablement sortir quelque chose d'intéressant. » Alex et Francis donnèrent des coups de leurs outils sur une des extrémités et le morceau d'arbre se fendit à nouveau en laissant voir dans son intérieur plusieurs objets boueux dont il était aisé de comprendre l'origine. « C'était Cotillard !» fit Cortisol, transfiguré et qui n'en revenait pas encore. « Parbleu, comme il s'était fait adopter ici, il ne sortait jamais du village. Cotillard !» Oui, et c'est parce que Christophe, Polo, Alex et Francis avaient découvert une autre source de boue que ce voleur a compris le danger. Aussi, il m'a tout de suite donné le faux bol pour détourner les soupçons sur moi. « Mais pourquoi diable les trempait-il dans la boue ?» demanda encore Cortisol. « À cela, je crois que je puis répondre, brigadier, » fit un des gendarmes qui venait de passer des menottes aux bandits. « Au temps de mes grands-parents, il y avait dans cette colline une source pétrifiante qu'on appelait la Fontaine Surprise. » On y entrait dedans n'importe quoi, des petits vases, des statuettes, et au bout d'une quinzaine de jours, tout cela était revêtu d'une jolie couche de brun coloré et doré. On les vendait alors à la fête du village. Puis la fontaine disparut, on ne sait plus trop comment ni pourquoi. Enfin, on n'en parla plus. C'est notre voleur qui, en fouinant dans la forêt, a dû la retrouver et s'en servir. « Allez, embarquez-le !» dit Cortisol au gendarme. « À la vraie prison cette fois !» s'écria Mouche. Au milieu du cercle formé par les gosses de la colonie, le brigadier, ne sachant plus quelle tête devant faire devant la fillette, la prit dans ses bras pour l'embrasser. « Mouche, tu es formidable !» murmura-t-il. « Je n'en suis pas bien sûr, » dit-elle modestement, « mais j'aime tout de même mieux que cela finisse ainsi. »